Voilà, nous en arrivons directement à la lecture des Écritures, à la prédication, mais avant de lire dans la Bible, nous prions. Éternel notre Dieu, nous nous disposons à l'écoute, afin que l'esprit de lumière et de vérité éclaire notre esprit, éclaire les mots de la Bible, et que nous y entendions ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Amen. C'est en fonction du thème que le conseil presbytéral propose de discuter, sur lequel échanger tout à l'heure en assemblée générale, que je vous invite à entendre un texte de l'Évangile selon Marc, au chapitre 6, les versets 7 à 13. Ayant appelé les 12, Jésus se mit à les envoyer deux à deux en leur donnant autorité sur les esprits impurs. Il leur enjoignit de ne rien prendre pour la route, sinon un bâton seulement, ni pain, ni sac, ni monnaie de bronze à la ceinture. Mais, disait-il, chaussez-vous de sandales et ne mettez pas de tunique. Il leur disait encore, « Lorsque vous serez entrés dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Et si quelque part les gens ne veulent pas vous accueillir ni vous écouter, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait changer radicalement. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des applications d'huile à beaucoup de malades et prenaient soin d'eux. C'est ainsi que Jésus envoie les 12 disciples, ses disciples, sans lui. Envoie en mission, tel est le titre que la plupart des traductions françaises donnent à ces quelques versets et à leurs parallèles dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Si le mot mission est absent du récit, le verbe envoyer s'y trouve bien. Appeler, quelques chapitres avant, puis envoyer. Envoyer sans Jésus, même si ce n'est pas encore la fin, le terme de l'évangile, qu'il faudra encore quelques chapitres et certainement relire l'ensemble de l'Évangile pour avancer dans la compréhension de ce que signifie l'appel et l'envoi, la compréhension de qui appelle et qui envoie, et peut-être en arriver à se dire que l'appel est aussi un envoi, comme les deux faces d'une même pièce. L'appel est toujours aussi un envoi parce que l'appel est appel à devenir vivant, à exister véritablement, et que cette existence vivifiée et renouvelée se vit dans des lieux et dans des relations, pas du tout dans une bulle isolée de tout et de tous. Être appelé à vivre, c'est aussi être envoyé vivre parmi et avec d'autres, quels que soient les chemins de vie, les lieux de vie, la manière de vivre. Cependant, l'équipement semble bien léger. Une tunique, pas deux, une paire de sandales, un bâton. C'est moins que le minimum. Pas de pain, pas de sac, pas de rechange, pas d'argent. Une telle radicalité semble un peu excessive. Mais, justement, quelle racine est atteinte par cette radicalité? L'appeler, envoyer, si vous me permettez ce regroupement des deux termes, l'appeler, envoyer n'est pas encombré de bagages, ni de possession. Il a même besoin d'être hébergé et nourri par ceux qui voudront bien l'accueillir. C'est-à-dire qu'il n'est jamais, jamais en situation de supériorité vis-à-vis de qui que ce soit. C'est lui qui demande à être reçu. C'est lui qui demande l'hospitalité. Il ne s'agit donc pas d'abord d'apporter, mais de se laisser recevoir. C'est-à-dire d'entrer dans de véritables relations personnelles, respectueuses, reconnaissantes d'autrui tel qu'il est, et reconnaissantes aussi d'avoir pu être établies, ces relations, grâce à lui. Ce que désigne le dénuement des appelés envoyés, c'est un état d'esprit et une manière d'être qui allie la confiance à l'humilité, la simplicité à la gratitude. Bien sûr, Jésus sait très bien que l'hospitalité n'est pas garantie dans chaque village, dans chaque maison, dans chaque lieu. Au quotidien et où que l'on vive, cet état d'esprit, cette manière d'être, confiance, humilité, simplicité, gratitude, cela peut paraître bien étrange, étranger, et heurter bien des intérêts, des habitudes, des pratiques, des conforts. Nous le savons très bien, nous aussi. Parce qu'il s'agit de l'expression d'une liberté intérieure qui ne se plie pas au système hiérarchique, au tri des discriminations ou au classement des préjugés. Alors, si les relations ne peuvent pas être établies, inutile d'insister. Inutile de se fâcher, secouer la poussière de vos pieds en partant. Alors, secouer la poussière de ses pieds en partant, ce n'est pas un geste de mépris. Ce n'est pas une malédiction. C'est, dit Jésus, un témoignage pour eux. Pas contre eux, mais pour eux. Et c'est une manière de dire deux choses. Nous ne vous avons rien pris, même pas la poussière. Nous ne vous portons pas préjudice. Nous ne vous voulons aucun mal et nous renonçons, malgré votre rejet, votre refus, nous renonçons à la vengeance et à la violence. Et puis cela peut vouloir dire également, quoi que vous en pensiez, vous et nous sommes faits de la même poussière, humble, fragile, cette même poussière dans laquelle souffle l'Esprit de Dieu. Mais si les appelés envoyés sont accueillis, c'est-à-dire quand des relations respectueuses et reconnaissantes sont établies avec d'autres personnes, si ces appelés envoyés sont écoutés, alors ils peuvent proclamer la conversion, le changement radical. Ils peuvent parler d'une autre manière de regarder, de comprendre et de vivre, autrement que dans les logiques de prédation, de domination, de compétition, de consommation qui gouvernent le monde. Ils peuvent le dire comme ils le montrent et le vivent. Ils peuvent dire qu'un autre monde est possible. Et puis, ajoute Marc, ils peuvent chasser les démons et faire des onctions d'huile aux malades et prendre soin d'eux. Car ils en ont reçu l'autorité. Ils en ont été rendus capables. Il suffit de lire l'évangile de Marc pour se rendre compte que les 12 ne sont pas des hommes extraordinaires, mais des humains comme nous tous. Mais appelés et envoyés, ils ont reçu du Christ la capacité de changer les choses là où ils sont accueillis et de les s'en changer sans usage de la force ni de la contrainte, par la parole adressée et par le soin apporté aux malades. Et cela, c'est l'espérance de Dieu pour eux. En fait, en vérité, C'est l'espérance de Dieu pour tous. C'est l'espérance de Dieu pour nous. Et ce n'est pas une petite espérance. D'ailleurs, il n'y a jamais de petite espérance, puisque l'espérance voit au-delà de l'apparence et même au-delà de la réalité. Ça va toujours loin et grand, l'espérance. Cette capacité de transformer le monde, de le rendre meilleur, agit par la proclamation du changement radical, en se déplaçant vers le point de vue de Dieu, c'est-à-dire un point de vue, le point de vue de l'amour et de la vie vivante. Et cela agit par deux autres moyens. Chasser les démons. Oh. C'est-à-dire la libération de ceux qui sont enfermés dans une dépendance, dans une aliénation générée par ceux qui, croyait-il, devaient les protéger. C'est cela que Marc nomme les esprits impurs, qui dominent les humains, qui se réfugient en eux, peut-être parce qu'ils ont peur de le vivre ou parce qu'ils ont déjà trop souffert. Par exemple, des superstitions. Par exemple, l'accumulation de biens. Ou toute autre sorte d'addiction, dirait-on aujourd'hui, qui empêche l'être humain d'être lui-même. Et les vies ainsi réduites en dépendance peuvent très bien être adaptées à un groupe, voire même à une société. C'est peut-être pourquoi il y a tant de récits de libération d'esprits impurs dans l'évangile de Marc. L'autre moyen par lequel agit la capacité de transformer le monde, c'est l'onction d'huile faite aux malades, c'est-à-dire le soin apporté aux blessés de la vie. C'est un signe très fort que Marc introduit ici. En effet, l'onction d'huile, c'est non seulement bienfaisant, apaisant, adoucissant, mais comme un langage de signe, elle exprime également l'amour et l'appel de l'Éternel, comme les rois, les prophètes, les prêtres étaient oints dans la Bible hébraïque. L'onction d'huile est signe de restauration, d'élévation de l'être et de la grâce donnée. Et les appelés envoyés sont ainsi attentifs aux plus fragiles, aux accidentés, aux boiteux, aux courbés. Ils attestent en cela de l'extrême dignité de tous ceux qui, bien qu'en souffrance, sont laissés pour compte, dévalués ou méprisés. Et c'est ainsi que les appelés envoyés rendent compte de l'espérance de Dieu. Parce que croire que l'humain est l'espérance de Dieu, ce n'est pas seulement le croire pour soi, c'est le croire pour chaque personne. Cet humain qui n'est pas rempli de ses possessions, qui est en chemin de liberté, de parole, d'attention à autrui, qui veut que d'autres trouvent ce chemin pour eux-mêmes et qu'il le leur désigne, cet humain capable de rendre le monde meilleur, de le transformer, c'est celui que Dieu espère pour chacun de nous et qu'en Christ et selon le Christ, il nous donne de devenir. Oui, l'espérance de Dieu, c'est que nous devenions comme des Christ. Et nous ne le devenons pas tout seuls par nos propres efforts, mais par ce divin appel en voix et grâce à des rencontres de personnes, grâce à des paroles entendues qui libèrent et qui éclairent, grâce à des gestes bienfaisants. Nous ne le devenons pas tout seuls comme un gain personnel, mais pour autrui. Pour que ce devenir soit aussi disponible pour d'autres et pour faire donc résonner librement et au quotidien, à notre manière, ce divin appel qui nous a rendus capables d'être vivants. Appelés, envoyés, 12 et plus, et nous, et chacun de nous, là où nous sommes, là où nous allons, en signe de vie, de liberté et d'amour, rendant compte de notre espérance, qui est l'espérance de Dieu. Amen.